Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Cinébrunch, l'émission qui n'a pas peur de popper son propre popcorn.
Oh.
Édition spéciale, retour de l'été. Les terrasses sont officiellement rouvertes à certains endroits, entre autres mon café favori, que je ne nommerai pas pour par crainte de me faire dire que les annonces pour le café Bistro Café, c'est dangereux.
Ah, c'est réussi, hein?
C'est du travail
T'as
de maître.
T'as le sens de l'anonymat, Louis. Incroyable.
Un sens de maître extraordinaire. Fait que je suis, comme d'habitude, accompagné Louis Laramé, moi, de mes co-animateurs, Jim Boulin et Mélina Lopez-Nadeau.
Bonjour!
Allô!
Allô! Fait que, ouais, c'est ça. On a une semaine fort occupée cette semaine. Jim a été voir des films non conventionnels. Mélina a été voir des comédies. J'ai été voir un film de gorille.
Et de rocher.
Et de fils de John. Oui, c'est quelque chose comme ça. Donc, sans plus attendre, Jim, que tu fais cette semaine?
Écoute, honnêtement, plein de choses qui ne regardent pas l'émission, mais dans le doute, je suis allé encore une fois sur Netflix, hein, j'aime bien faire ça, et j'ai constaté avec une grande surprise, et c'est peut-être bien pour l'arrivée de l'été, qu'il y a une panacée de films de Monty Python sur Netflix en ce moment.
Je les ai vus aussi.
Oui.
C'est tellement cool.
Alors, je pense que presque tous les films sont là, si ce n'est pas tous. Il y a, entre autres, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui veulent le revoir, The Holy Grail, La vie de Brian, Le sens de la vie, ou même la série britannique Flying Circus qui les ont fait connaître. Donc, vraiment, allez sur Netflix. Et même, qui n'a pas rapport avec Monty Python, mais vous savez, l'année dernière, je vous ai parlé du film Loving Vincent, le film... sur Vincent Van Gogh. Je vous recommande fortement ce film-là. Il est sur Netflix, donc allez regarder ça si vous ne l'avez pas vu. C'est l'occasion de voir ce film-là qui a été entièrement créé par une centaine de peintres, d'artistes peintres à l'huile qui ont créé, donc, image par image, ce film-là aux couleurs, aux teintes et aux textures du fameux peintre Vincent Van Gogh. Donc,
puis, si voilà. Je peux me permettre un instant, faire une recommandation spécifique dans les épisodes du Flying Circus, de trouver l'épisode à propos du ministère des marches drôles, le Ministry of Silly Walks, qui est un des clips qui, encore aujourd'hui, fait rire et fait connaître ces gens-là.
Un classique.
En termes de bureaucratie et de burlesque, on ne fait pas mieux encore à ce jour.
Alors, amusez-vous bien. C'est parfait pour l'été. Demain, il va pleuvoir bientôt. Fait que c'est ça.
Ouais. Moi, cette semaine, j'ai finalement accepté, ou en tout le moins continué d'accepter, comme d'habitude, mon état de nerd, de geek, de weirdo, de tripper, de patente, où est-ce que j'ai... plus d'une semaine et demie avant la première, j'ai déjà acheté mon billet
pour les Avengers.
Avengers, les guerres de l'infini, Avengers Infinity War. J'ai sous les colibets des employés de la maison du cinéma, acheté mon billet parce qu'eux aussi me trouvaient un peu drôle et funny que de faire ça autant d'avance.
Mais c'est parfait parce que tu vas pas nous en parler la semaine prochaine.
Je vais le faire avec plaisir. J'étais là le jeudi soir à 20h.
Voilà, alors c'est merveilleux. On se demande qui était avec toi.
Ben c'est ça. Mais non, c'est ça, ça reste quand même un film que j'attendais avec impatience, ça reste un nouveau Marvel. Fait que j'ai ben hâte de vous en parler.
Bon, excellent.
Fait que Mélina, qu'est-ce que toi tu nous as préparé cette semaine?
Oui, en fait, moi cette semaine, j'ai réalisé que depuis environ un an et demi, je payais le service Amazon Prime.
Sans le savoir,
effectivement, à mon insu. Et là, j'ai exploré ça un peu, puis j'ai découvert que j'avais accès à Prime Video, qui est comme une espèce de Netflix, mais pas Netflix, avec quand même des films intéressants.
Des films moins intéressants.
C'est ça, mais tu sais, ça change du catalogue de Netflix, là, si on peut dire.
Puis il y a également une de mes séries que j'ai beaucoup attendu, qui était The Man in the High Castle, qui est une reprise du célèbre romancier Philip K. Dick, le roman du même titre. Oui, je suis un fan fini de cet auteur-là, mais la série était apparemment très bonne. Je ne l'ai pas écoutée, parce que moi, je ne paye pas pour Amazon Prime.
c'est la vie. C'est la vie.
C'est des choses qui arrivent. Fait que merci. Cette semaine, tu es allé voir une comédie dont la vedette est Amy Schumer. Un film qui a vraiment été attendu de plusieurs et Amy Schumer, qui est une humoriste appréciée de plusieurs. Comment as-tu aimé ça?
J'ai vraiment aimé le film, en fait. Dans le fond, le film, ça s'appelle I Feel Pretty en anglais et en français, c'est Moi, jeune et jolie.
Moi, belle et jolie.
Moi, belle et jolie, oui. Ça fait plus de sens. Mm-hmm. Moi, belle et jolie. Donc, c'est ça, c'est...
Le planning me dit que c'était moi, belle et jolie, en effet.
Oui. Bon. Merci au planning de me rappeler à l'ordre quand j'ai tort. Mm. Donc, c'est ça. C'est avec, comme tu l'as dit, Amy Schumer, qui est une humoriste, que j'apprécie. Mais j'ai pas regardé nécessairement tout ce qu'elle a fait. Mais j'ai vraiment aimé sa performance dans le film en tant que telle. C'était vraiment vrai comme performance. C'est-à-dire que... J'avais pas l'impression... Des fois, il y a des acteurs que t'as l'impression qu'ils sont en train de acter, mais elle, dans son cas, on sentait qu'il y avait vraiment... Puis c'est pas une actrice non plus, là. Ben, je veux dire, elle a fait déjà des séries d'humour, mais pas à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment une belle réussite pour elle. Et ensuite, on a quand même un gros cast, là. Michelle Williams, Emily Ratajkowski... Rory Scovel, Naomi Campbell, Lauren Hutton...
Des gens avec des noms très prononçables.
Là. Oui, c'est ça, pour me faire pratiquer mes ma prononciation. Donc, c'est ça, dans le fond, l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui manque beaucoup de confiance en elle, qui est interprétée par Amy Schumer, et qu'en allant à une classe de spinning, elle tombe de son vélo et elle se cogne la tête. Et à partir de là, elle se réveille, puis elle a super confiance en elle. Elle se trouve super jolie. C'est vraiment intéressant comme concept, mais on va aller écouter la bande-annonce, en fait.
Vous cherchez un cadeau?
Non, je magasine pour moi.
Nos tailles sont plutôt limitées en magasin, mais vous trouverez probablement la vôtre en ligne. OK.
OK. Je viens d'avoir une idée folle. Soyons honnêtes un moment. Tout le monde a beau répéter tout le temps que c'est ce qui est à l'intérieur qui compte. Au fond, les femmes savent bien que tout le monde juge d'abord l'enveloppe.
Tout va bien? Est-ce que ça va? Tu t'es cogné la tête vraiment fort.
Quoi? C'est moi ça? C'est moi?
Ouais.
Oh mon Dieu, tu vois ce que je vois?
Ouais.
Je suis... magnifique!
Choix de bande sonore vraiment pertinent.
Oui, vraiment, effectivement. Donc, c'est ça, j'ai oublié de mentionner tantôt que c'est d'une jeune femme, Renée, jouée par Amy Schumer. C'est ça, elle a un peu un surplus de poids qui la complexifie vraiment beaucoup. Et là,
la complexifie?
Ça se dit pas?
Pas dans ce sens-là. Complexifie, c'est qu'elle se rendrait plus complexe.
Oui, oui.
Par conséquent, je pense pas que c'est une série d'équations algébriques qui soudainement passe du troisième au quatrième niveau. Je pense qu'ici...
La complexe.
L'inquiète, la stress, la rend anxieuse, lui crée des complexes. Mais
crée des complexes, c'est bon.
Pas
c'est bon.
De la complexifie, non.
Merci, Louis. Je sens que le comité électoral de Acton Vale va être vraiment content de nous avoir, de nous entendre corriger certaines de mes façons de parler.
Le comité électoral de Acton Vale. What? Je shout out à mes chums de Roxton Town. Raise the roof for the people in Hayer's Cliff. Est-ce que j'ai.
Oui, t'es drôle.
Mon Dieu, j'en perds mon chapeau. J'ai pas ri de même depuis.
Ce que nos auditeurs auditrices ne savent pas, c'est que Jim a effectivement perdu son chapeau qu'il ne portait pas sur sa tête. C'est ça qui est hallucinant.
Voilà,
ici.
Voilà.
Voilà. Donc, où en étais-je avant?
Donc, oui, ça la rend plus complexe.
C'est ça.
ça passe d'un problème de trigonométrie à de calcul intégral.
C'est bon. Exactement, c'est, voilà. C'est là que je me sens dans ma compréhension. Donc c'est ça, son surplus de poids la rend plus complexe, comme on dit.
Comme on dit, ouais.
Comme vous dites, vous autres, mes co-animateurs. Et donc, quand elle se cogne la tête, elle commence à avoir super confiance en elle, mais vraiment beaucoup. Et ça va donc générer plusieurs changements positifs dans sa vie parce que le fait d'avoir confiance en elle, ça lui permet d'agir d'une façon qu'elle n'agirait pas normalement, de prendre des risques qu'elle ne prendrait pas normalement. Puis,
ça lui donne de la drive, comme on dit.
Oui, là. C'est ça, mais c'est vraiment bien amené. Ça, on aurait pu tomber dans quelque chose d'un peu, je ne sais pas, absurde ou trop cliché. Mais on n'est pas tombé nécessairement... Je veux dire, il y a des clichés, on s'entend. Mais pour le type de film, c'est vraiment un bon film. J'ai ri, j'ai aimé ça. Je suis sortie de là, je me sentais bien dans ma peau. J'avais confiance en moi. Donc, c'est vraiment un bon film pour ça. J'encourage les gens à aller le voir. Oui, c'est sûr que c'est pas un film qui nécessairement vise un public très large non plus. Je pense que...
ou peut-être que oui, en fait, c'est pour les gens très larges.
Moi, je pense que oui,
en fait,
oui, c'est pour les gens plus larges.
C'est ça. Non, mais je veux dire, il y a peut-être un homme dans le film ou deux hommes dans le film.
OK, fait que c'est vraiment centré sur une réalité féminine, là.
Oui, exactement, de prendre confiance en soi. Tu sais, la morale est super belle, la fin est super bonne. J'ai bien aimé ça, donc petite comédie. C'était prévu pour sortir à la fin juin. Ça a été devancé parce que ça l'a vraiment bien testé devant les audiences.
OK.
Puis, mais vraiment, c'est très bien avec l'arrivée de l'été, de tout ça. C'est un bon film à voir en été. C'est...
Avant de se dénuder et de se mettre
mais
en
c'est ça.
En
non, mais
vêtements.
De projeter cette confiance-là, l'hiver, on dirait qu'on tombe tous dans un genre de...
De mou.
De mou, c'est ça. Puis là, je sais pas, ça donne
j'arrête
du punch à l'été.
J'arrête de me faire les jambes tout l'hiver.
ah oui, oui.
Je deviens irresponsable.
Ah, ça explique des choses.
Donc, c'est ça pour le film « Moi, belle et jolie »,« I feel pretty » en anglais.
Tu lui donnes combien?
Je donne 7.3, parce que j'aime ça donner 7.3.
C'est toi qui vas devoir arrêter de mettre des non, chiffres intègres quand tu fais nos critiques. Mais c'est aussi parce qu'on a un mois de juin vraiment chargé au niveau mois de mai vraiment chargé au niveau cinématographique. Là. Je regardais entre Star Wars et Deadpool, je pense qu'on va être équipé.
Mm-hmm. Je pense qu'on va bien s'amuser.
Je pense que je vais avoir du fun.
Ouais. Ben toi, ça veut dire que toi, t'as plusieurs Marvel dans le même mois, là, ça?
Non, parce que Deadpool ne fait pas une partie...
C'est pas le même...
C'est pas le Marvel Cinematic Universe, c'est pas... J'en avais parlé un peu, mais j'aurais dû plus le mentionner lors de mon dernier topo sur l'univers.
Oui, je suis encore un peu confuse là, sur toutes ces choses, mais bon.
Le problème, c'est des deals de distribution de films, mais on ne parle pas de ça à l'instant. Là, à l'instant, on remercie Mélina de sa critique extraordinaire de « Moi, belle et jolie ».
Ça fait plaisir!
Et on passe à autre chose. J'ai failli créer le mot de la semaine, bagou. Connaissez-vous le bagou?
Non, qu'est-ce?
C'est une forme spécifique de charisme qui nécessite de parler beaucoup et d'être vraiment enthousiaste.
Oh, mais, je connais des bagoueux. Ah. Des bagoueux,
oui, des
bagouceux.
Gens qui, non, oui. c'est une possession du bagou. C'est le bagou.
Tu as le bagou.
Oui.
Ah, je connais.
Tu connais, le bagou. Oui, ouais, c'est ça. C'est...
Oui,
moi,
on a tous des gens dans notre entourage qui
ont le bagou.
Sont le bagou là.
Moi, j'ai le tapia.
Toi, t'as le tapia, oui.
Moi, ça m'arrive de manger du tapioca.
Ah!
Ou du tilapia aussi, quand il est en spécial.
Oui. Il y a vraiment un humour qui est récurrent dans ces...
Oui, avec le tilapia, revient souvent. En tout cas, t'aimes bagou le tilapia, Louis. C'est ce qui me vient. Bref.
T'aimes bagou!
Là, chers auditeurs, chers auditrices, je vous fais une confidence. Je n'ai pas de bande-annonce ou de transition à partir de nouveau. Fait que je peux pas juste couper le gym avec une bonne raison. Je suis obligé de juste essayer de continuer après ce gag-là. Donc,
sachant que rien n'égalera ce gag-là, évidemment.
C'était un bagou trop drôle.
Ça dégénère.
Cette émission-là, je me reconnais de moins en moins.
Mais tu le dis à chaque semaine. Fait que ça donne une espèce de ça donne une espèce de plateau.
Aussi, depuis quelques temps, depuis qu'on a changé d'animateur de l'émission, parce que les auditeurs ne savent pas comment est fait le studio de CFLX, c'est que je suis plus dans la même pièce que mes co-animateurs et co-animatrices. Fait que j'ai effectivement une distance représentée ici par une pièce de plexiglas.
Toi, c'est de la vraie vitre, en fait. Je pense que c'est du verre.
Peut-être. Mais bref, qui crée peut-être cette distance entre moi et comment est-ce que le reste de l'équipe se sent? Mais
sans doute.
Sur ces trêves de plaisanterie.
Donc, tu étais voir un film, oui.
J'ai été voir un film. J'ai été voir un truc qui s'appelle Ravage ou Rampage en anglais. C'était très drôle d'ailleurs parce que même dans la version francophone, lorsqu'il est question du projet Rampage,
oh boy.
Ouais, c'est ça. C'est une traduction québécoise un peu abattardie.
Rampage.
Ouais, le projet Rampage.
Qui n'a absolument aucunement la même signification que le fait de ramper.
Non, c'est
question
c'est pas,
de vraiment être à côté de la traque, comme on dit.
On va juste rapidement aller lire la petite description cute que fournit la maison de presse. Le primatologue Davis Okoye s'occupe d'un gorille albinos du nom de George depuis de nombreuses années. Les deux êtres ont développé un lien bien particulier ensemble. Un jour, George entre en contact avec un gaz qui change son bagage génétique. Il grandit à vue d'œil et devient de plus en plus agressif. Deux autres espèces, un loup et un crocodile, ont respiré la même substance et bientôt les trois animaux sauvages se dirigent vers la ville de Chicago afin de rejoindre un signal envoyé par la machiavélique entreprise derrière cette terrible expérience. Fait que là, juste, on va mettre rapidement en perspective, là, la machiavélique entreprise est dirigée par Marlon Ackerman qui joue Claire Wyden, une chef d'entreprise machiavélique, froide et calculatrice, et son frère joué par Jake Lacey. Jeffrey Dean Morgan joue Harvey Russell, un espèce de cowboy de l'OGA, The Other Government Agency, une espèce de gouvernement sombre sous les couvertes des agences américaines. Naomi Harris joue de la docteur Kate Caldwell, qui est une médecin, en tout cas on va revenir sur la généticienne Mme Caldwell, et Davis Okoye.
George?
Non, pas George.
Ah non, ça c'est The Rock.
Non, George, c'est un gorille créé par animation 3D. Fait que c'est un gorille albinos spécifiquement créé par animation 3D. Non, Davis Okoye, c'est Dwayne Johnson qui le joue. Dwayne The Rock Johnson. Là, OK, je vais vous mettre la bande-annonce. Après ça, on parle de ce que c'est.
George, c'est OK.
C'est moi ou il est beaucoup plus grand?
Non, il est beaucoup plus grand. Il faut trouver quelqu'un qui pourra nous dire ce qu'est cette chose.
Je l'ai trouvé. Non, je blague. En fait, c'est elle qui nous a trouvé.
Qu'est-ce qui lui arrive à mon pote?
L'édition génétique, vous connaissez. Les changements vont être totalement imprévisibles. Force décuplée.
George!
Vitesse accrue. Agilité démultipliée.
Non! Où est George? Je dois le voir.
Il est dangereux.
Je me souviens quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis fait la réflexion, ça a l'air vraiment pas bon. Et on s'en était parlé, et les deux ont été comme pas convaincus. Et pourtant, semble-t-il que ce film-là est en train de remporter plein de pas de prix, mais de... Ça a l'air d'en bien marcher quand même pour ce film-là.
Ben... OK. Voici où est-ce que je m'arrête un instant. C'est en train de rapporter beaucoup de box-office. Il y a beaucoup de gens qui vont le voir. Parce qu'on s'entend, Dwayne The Rock Johnson, ça amène des gens au cinéma.
Il est populaire.
C'est un type qui a un charisme incroyable. À plusieurs reprises, on l'a vu arriver dans des séries et les reprendre, entre autres. Rapide et dangereux.
Ouais.
Mais c'est un type qui est capable de, juste à lui tout seul, nous faire croire en quelque chose. On l'a vu aussi avec Jumanji, Le Retour dans la jungle, où ce que c'était lui, en grande partie, qui portait ce film-là. Mais... Ah. OK, fait que ce que c'est, dans le fond, là, c'est une espèce de compagnie Energine, qui est une compagnie de... On sait pas trop quoi, vraiment, qui a une station de recherche sur un satellite, parce que ils font des recherches dans la modification génétique qui est considérée comme des armes de destruction massive par le gouvernement américain. Suite à un incident, la station orbitale mange une volée et se ramasse sur la planète Terre. Il y a trois samples du produit sur lequel il est en train de travailler qui se ramassent sur la planète. Un sur George, un sur un loup, un sur un crocodile. déjà...
C'est weird, là.
Ça part bizarre. Je suis comme fâché parce que à plusieurs reprises, ils nomment le processus qui est CRISPR, qui est un processus de modification génétique qui est en ce moment beaucoup utilisé dans l'avant-garde de la recherche parce que c'est une méthode qui démontre beaucoup de possibilités et de potentiel pour la recherche tant au niveau médical, alimentaire que autre. Oui, c'est à la base de certains OGM qui ont peut-être une mauvaise réputation, mais c'est quand même une méthode de recherche à la fin de pointe qui démontre du potentiel, qui n'est pas encore complètement développé. On ne sait pas encore tout ce qu'on peut faire. Mais là, c'est vilifié comme étant cette chose terrible qui crée des monstres, finalement. Au moins, à trois reprises, c'est comme « CRISPR, détruire des choses. CRISPR, des monstres. CRISPR, le loup est rendu avec des ailes. » OK. Fait que...
Donc, Monsanto n'a pas commandité ce film-là. C'est ce que je comprends.
Non, Bose l'a fait. Mais ça, c'est un autre département.
Effectivement. Fois, ça doit bien sonner.
Oui, ben les écouteurs de tout le monde dans ce film-là doivent quistiment bien sonner.
Ben, ça doit. Ouais.
Quand le pilote d'hélicoptère est rendu avec des Bose, là, tu sais que c'est la grosse classe.
Ouais.
Fait que, ça commençait déjà vraiment mal parce que j'étais comme, allez chier, vous êtes pas supposé vilifier la science. La science est supposée être la chose importante dans la vie. Deux, l'histoire tient à peu près sur une feuille de papier, puis encore, là, il y a interligne double, puis comme ben de l'espace. Parce que c'est juste ça, là. C'est juste de dire que la compagnie fait des expériences, ça se ramasse à la planète, ça rend les créatures complètement. Ça les fait grossir, devenir agressives, et ils se régénèrent super rapidement. C'est jamais expliqué pourquoi ils font ça, c'est jamais expliqué les objectifs de ces recherches-là, c'est jamais expliqué pour qui ont l'intention de vendre ça, c'est jamais expliqué qu'est-ce qu'ils vont vraiment faire avec ça. Tout ce qu'on a, dans le fond, c'est cette espèce de dirigeante d'entreprise, Claire Wyden, qui démontre, dans ses manteaux de fourrure et ses robes griffées, nous démontre une espèce d'irrespect pour la vie humaine sans pareil. Point, fin. Bon, okay. C'est ça comme toute la motivation derrière ce film-là.
Une garde méchante puis des gentils musclés qui vont sauver des animaux.
Pour être sûr de vraiment mettre le point bien au clair, ils lui ont affublé un frère qui est complètement inutile, qui est juste là pour être le comic relief de ce personnage-là. Mais même lui, on y croit en moitié parce qu'il est quand même aussi à la tête de la même compagnie. Puis bref, dans un élan de méchanceté sans pareil, il déclenche une espèce d'émetteur qui fait que les créatures se dirigent vers Chicago. Point. Donc, c'est pour ça qu'on se ramasse avec le loup, le gorille et le crocodile qui s'en vont vers le Chicago, dans une ville super habitée. Fait que là, on voit l'espèce de combat de l'armée américaine, l'espèce de shadowy gouvernement dirigé par Harvey Russell avec un accent de cowboy vraiment intense, puis les efforts d'un primatologue, Dwayne The Rock Johnson, qui est aussi un ancien membre des forces spéciales.
Évidemment. Non, mais c'est normal.
Parce que tous les membres des forces spéciales se recyclent comme primatologues.
Oui, c'est connu.
Développent des relations vraiment intenses avec des gorilles au point d'apprendre le langage des signes avec eux.
Écoute, Louis, tu pourrais être surpris. Hein? Tu sais qu'il y a beaucoup de peintres qui sont pyromanes.
J'ai pas... non, j'ai plus de bande-annonce à partir. Hein? Non, c'est fini. Mais donc, bref, c'est un film qui fait aucun sens au début à la fin. Là. Comme j'ai écouté ça, puis j'étais comme, OK, vous voulez juste une excuse pour garocher
The
un
Rock
gorille.
Faire de l'argent. Ouais.
Mais même The Rock, finalement, prend un second plan versus les monstres, parce qu'on s'entend que Dwayne The Rock Johnson est un homme massif. Là. Il fait 6 pieds 2, puis il a du muscle à revendre. Mais à côté d'un gorille de 12 pieds, d'un crocodile gigantesque, puis d'un loup qui a des ailes,
je sais pas pourquoi, c'est vraiment pas bon.
Moi, je m'attendais à quelque chose. T'sais, moi, j'aime quand même The Rock. Je pense qu'à l'occasion, il a montré qu'il était capable d'être charismatique assez pour récupérer un film. Entre autres dans Fast and Furious. Mais pas là. Là, c'est juste...
C'est juste pas bon.
C'est juste pas bon. Il y a une espèce d'histoire d'amour un peu boboche entre lui et le docteur Caldwell, qui est une espèce de généticienne qui était la tête des recherches pour Energine, qui finalement s'est ramassée en prison parce qu'elle a essayé de... En tout cas, c'est super compliqué.
C'est un film qui aurait été bon dans les années 90. Là. On dirait. Là. C'est le genre de film qui sortait dans les années 90 avec
Honnêtement, je pense qu'il faisait pas assez chaud encore dehors parce que j'avais pas le cerveau assez embouilli pour comprendre ce qui se passait. Okay. Pourquoi. C'est honnêtement, je le compare aux Transformers, les plus récents, là, parce que c'était vraiment ça. C'était une excuse pour avoir des gros monstres à l'écran.
Puis vendre des bébelles.
Ouais, puis c'est même pas assez intéressant ou les combats sont même pas assez le fun pour justifier ça. Fait que un solide 4 sur 10 pour Ravage.
C'est-tu beau au moins? C'est-tu beau les monstres pis tout ça?
Il y a au moins 2-3 moments où j'ai fait « Oh, je vois les contours de l'ordinateur qui dépassent. »
Oh, Bocchi en plus!
Mais non, pas à ce point-là, là, mais au moins une reprise que j'ai faite. Il aurait peut-être dû mettre 3 gars de plus à faire les effets spéciaux ici. Là. Comme c'était beau, c'était intéressant, mais il y avait des moments où comme, hop, là, et celle-là était peut-être pas supposée se ramasser dans le film.
Fait qu'une production pour ramasser de l'argent, là, ni plus ni moins.
Un film d'été qui est sorti un peu trop tôt et qui est pas si bon que ça.
Ah.
Ouais.
Plein de joie.
Non, mais c'est des choses qui arrivent, puis c'est correct.
Tu vas lui pardonner à Dwayne?
Mais Dwayne Johnson, en réalité, à ce point-ci, j'ai accepté qu'on le garochait dans tous les films où il pensait qu'il allait peut-être sauver quelque chose.
Ouais.
Fait que quand ça le fait, là, je veux dire, je continue de penser que Jumanji était une des meilleures comédies que j'ai vues depuis vraiment longtemps, mais ça, non. Un très solide skip it de la part de Louis.
Hmm. Bon, ben c'est noté.
Mais merci d'être allé voir ça pour nous, Louis.
Oui,
puis j'y retournerai pas.
Je suis content de pas faire une critique commune de ce film-là.
Oui.
On aurait dû...
Ça aurait été intéressant, mais non.
Non, OK.
Non. Ben, on aurait été trois pas aimer ça, fait que tu vois, ça aurait pas été très intéressant à discuter.
Hmm.
Non?
Oui.
Peut-être que moi, j'aurais aimé ça. Il y a quand même Jeffrey Dean Morgan, que j'ai connu dans Grey's Anatomy, où il jouait Denis Duquette, que c'est un acteur que j'affectionne particulièrement. J'écoutais en entrevue récemment, il parlait qu'il vivait sur une ferme.
T'as pas un jingle?
C'est le moment des sorties cinéma.
Je suis sorti!
Fait que là, on a une couple d'affaires intéressantes la semaine prochaine. Entre autres, on a un truc qui s'appelle Après la guerre, qui est un drame français et italien réalisé par Anarita Zambrano avec Giuseppe Bastiton et Barbara Bobulova, qui, Bologne, 2002. Le refus de la loi travail explose dans les universités. L'assassinat d'un juge ouvre des vieilles blessures politiques entre l'Italie et la France. Marco, ex-militant d'extrême-gauche, condamné pour meurtre et réfugié en France depuis 20 ans grâce à la doctrine Mitterrand, est soupçonné d'avoir commandité l'attentat. Le gouvernement italien demande son extradition. Obligé de prendre la fuite avec violence, sa fille de 16 ans, sa vie bascule à tout jamais, ainsi que celle de sa famille en Italie, qui se retrouve à payer pour ses fautes passées.
Le film était au Festival du cinéma du monde de Sherbrooke.
Avais-tu la chance de le voir?
On l'a vu
on
ensemble,
l'a vu ensemble, oui.
C'était-tu bon?
C'était très bon.
C'est vraiment un bon film.
Oui.
On continue dans les films au Festival du film au Festival du cinéma du monde de Sherbrooke. Ava, la version originale perse sous-titrée.
Donc,
Ava.
Pas le film français.
Alors, non, le drame iranien Canada, réalisé par Sadaf Farooghi, mettant en vedette Vahid. Shit. J'ai de la misère avec les noms, je m'en excuse. Vahid Hakapour, Parnian Haktari et Sarah Ali Moradi.
C'est surtout le Sarah qui était difficile, je pense.
Je commenterai pas. La confiance entre une jeune iranienne et ses parents est mise à rude épreuve après une troublante visite chez le gynécologue. Derrière cette brûlante quête intérieure d'une adolescente rebelle de 16 ans qui tente de s'affranchir à la fois de l'autorité parentale et de fondements socioculturels profondément ancrés et reculés, et régulés, la réalisatrice propose une puissante critique d'une société qui étouffe la créativité et l'expression de soi à un âge des plus vulnérables. Un film que Jim a déjà décrié fortement, qui Jim va aller voir à reculons, parce que je vais le forcer à aller le voir, qui est La Ch'tite Famille.
Ben écoute, je sais pas si je vais aller voir à reculons. J'ai l'impression, moi j'ai beaucoup aimé Bienvenue chez les Ch'tis.
Oui.
Ça c'est un peu la suite de ça, c'est par Danny Boone aussi.
Oui.
La seule chose, c'est que la bande-annonce a pas l'air, donne pas envie de voir le film.
Vraiment pas.
Mais on peut être surpris.
Danny Boone, Valérie Bonneton, Guy Lecluise, Lynn Renault, Pierre Richard, François Berléand, réalisé par Danny Boone, Valentin D. et Constance Brandt, un couple d'architectes-designers en vogue, préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c'est que pour s'intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'ti. Alors que quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D'autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière. Plus ch'ti que jamais. Ce qui donne vraiment une bonne annonce qui a l'air poche.
Ouais, et toute une histoire d'adultère aussi à travers ça.
Oui, pour ajouter au fond.
Ouais, c'est ça. Donc, mais on va. Mais en tout cas, Danny Boone, j'admire ce gars-là. J'aime beaucoup les choses qu'il fait. Donc, je vais quand même y aller.
On va peut-être être surpris.
On va peut-être avoir utilisé des fourches. Ou peut-être qu'il faut vouloir l'utiliser après.
On verra bien.
Le Cowboy, version originale, The Rider. Drame américain réalisé par Chloé Zhao. Mettant en vedette Brady Gendreau, Tim Gendreau, Lily Gendreau, Kat Clifford, Terry Don Poirier et Lynn Scott.
Il y a une famille au complet là-dedans, oui, la famille Gendreau.
Ouais, je sais pas, la prononciation est probablement pas correcte, parce que américain, mais là, j'assume. Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodeo, apprend qu'après son tragique accident de cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne peut plus s'adonner à l'équitation et la compétition qui donnait tout son sens à sa vie. Dans ses efforts pour reprendre en main son destin, Brady se lance à la recherche d'une nouvelle identité et tente de définir ce qu'implique être un homme au cœur de l'Amérique. Ce qui a l'air quand même cool.
C'est là qu'il est allé jouer au football pour les Patriots. Tom Brady.
On va demander à Jim de quitter le studio.
Bye.
Bye, Jim. Ça a été un plaisir.
Bye.
Ouais. Excellent. On va maintenant continuer. En
t'es encore là?
Ah, chut. Les effets sonores. Tully, version française. Tully. Des fois, je trouve drôle les trucs comme ça. Réalisé par Jason Reitman, mettant en vedette Charlize Theron, Mackenzie Davis, Mark Duplass, Ron Livingston, Emily Hain et Kitty Crystal. Honnêtement, le synopsis, une comédie sur la maternité et ses petits tracas. Point. La bande-annonce démontre en fait une femme qui, suite à la naissance de son deuxième enfant, commence à avoir de la misère et engage donc une nounou qui va lui faire prendre conscience de ce que c'est que la vie, le rôle d'une mère et de vivre pleinement. Honnêtement, j'en ai parlé, je pense, en oui. Ondes. J'ai vraiment pas hâte d'aller voir ça. Je vais probablement pas aller le voir. Je vais insister.
Eh bien.
C'est donc ça pour les sorties pour la semaine prochaine. Donc, en cette dernière demi-heure de Cinébrunch, nous allons nous parler des films que Jim a vus. Également, un French Marie Gifle un peu drôle et un chialage de Louis.
Ah, moi, je pense en général, que... il chiale.
Oui, mais je pense qu'on va... Je suis en train de considérer te demander de faire un jingle pour les chialages de Louis puis d'en faire une chronique semi-régulière.
On va réfléchir à ça.
Ou pas, parce que si je réfléchis trop longtemps, j'ai chaud. Jim, cette semaine, t'as été voir Checker Romeo? Non.
Regard sur Juliette.
Ah, laisse-moi faire des blagues.
Ah. Donc oui, je suis allé voir Regard sur Juliette ou Eye on Juliet en anglais. Un film québécois qui est passé sous le radar, probablement parce que justement, il est tourné en anglais et en arabe. Le film est écrit et réalisé par Kim Nguyen, qui nous avait donné en 2012 l'extraordinaire film War Witch ou Rebelle en français. On écoute la bande-annonce.
On a une fille assise dans le désert.
Qu'est-ce qu'elle fait?
Elle fume. Hey, c'est la même fille que l'autre nuit.
Tu veux juste la rencontrer, cette fille, avant.
Qu'est-ce qu'elle attend?
Fuyons en Europe. Allons nous marier à Paris.
Je ne vous veux aucun mal.
Allez, je t'ai banni.
Je sais que vous essayez de fuir ce pays avec votre petite amie, et j'ai vu que vous deux aviez un amour véritable. Alors je veux vous aider.
Donc, je vous l'ai dit, j'ai vu un film pas comme les autres. Donc, Regard sur Juliette, c'est un film assez unique dans son genre, un mélange de choses qu'on a vues séparément, mais jamais ensemble. Je dirais que c'est probablement un drame sentimental, parfois un peu exploratoire, sur les différences culturelles, etc. Le film se passe simultanément aux États-Unis et dans un pays nord-africain non spécifié. À Détroit, Gordon, un jeune homme qui vit une rupture difficile avec sa copine, son travail opérateur de drone pour une compagnie de surveillance qui est en charge de la sécurité d'un pipeline dans un désert en Afrique du Nord. Il vit à Détroit et travaille de nuit pour surveiller des écrans et manipuler des petits drones, pas des drones volants, mais des drones aux pattes articulées en forme de crabe ou d'araignée, munis d'une caméra, d'un micro, d'haut-parleurs, d'armes létales et de tout ce qu'on peut imaginer.
Un peu comme R2-D2, genre.
Ouais, mais plus comme une espèce d'araignée. Là.
BB-8.
Ouais, bon, on reviendra là-dessus quand sortira le prochain film de Star Wars.
Pour avoir vu la bande-annonce, ça a plus l'air de l'enfant maudit de BB-8 et d'une araignée.
Enfin, on fera un jour une compétition de drones. d'appréciation des drones. Dans tous les cas, un jour, en faisant sa patrouille, donc Gordon, qui, disons plutôt un de ses drones, voit Ayusha, donc une jeune et très jolie maghrébine, seule dans le désert. Il la revoit quelques fois en compagnie d'un homme qu'elle voit en cachette et avec qui elle tente de quitter le pays pour l'Europe, pour pouvoir vivre leur amour alors que sa famille a arrangé un mariage avec un homme plus vieux qu'elle et qu'elle n'aime pas. Alors que la vie sentimentale de Gordon à Détroit est au plus bas, il décide d'aider la jeune femme et son amant dans leur cause à des milliers de kilomètres de chez lui. Alors, ça, c'est vraiment l'histoire du film. Mettez ça sur une heure et demie à peu près. C'est un film vraiment sur l'amour, l'âme sœur, les différences culturelles, parce qu'évidemment, bon, elle est obligée d'écouter ses parents et de faire ce qu'ils lui demandent. Le jeu des acteurs était bon. Personnellement, ça ne m'a pas jeté à terre, mais effectivement, il y a quelque chose d'intéressant. Beaucoup de gros plans. L'histoire en elle-même est un peu difficile à décrire. C'est un film qui peut, disons, être assez longtemps contemplatif. Mais chose certaine, pour le premier deux tiers du film, je me sentais plutôt bien. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je dirais que ça s'écrit probablement dans la catégorie des « feel-good movies », là, qu'on dit. Pour certaines personnes, ça pourrait être probablement beaucoup long, parce qu'il y a quand même peu de dialogue dans le film. Beaucoup de gros plans sur Gordon, sur ses émotions. On voit beaucoup d'images de drones qui se déplacent, et c'est lent, là, ces drones-là. Là, c'est super lent. Là. Ça avance à vitesse de tortue, quasiment. Là. Mais on sent bien quand on regarde ça. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose de posé. C'est peut-être parce que j'ai vu trop de films vraiment intenses ces derniers mois.
Peut-être
là.
Aussi.
Mais en tout cas, bref, franchement, c'est un film qui nous fait sentir bien. Gros point négatif dans le film, je dirais que c'est très fromagé, donc très cheesy. Surtout la fin. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une fin heureuse au cinéma. Alors là, vraiment, ils ont mis le paquet. Là. C'est tout est là pour un film cute et émouvant. Aussi pas mal de choses qui n'ont pas de sens dans le film. Par exemple, une résilience un peu rapide des personnages après un deuil, par exemple. Décision des gens. Et la manière dont les gens prennent des décisions, on dirait que tout est aligné. C'est pas trop crédible à ce niveau-là. Ça fait comme un peu trop beau pour être vrai, les choses, comment ça se passe. Mais quoi qu'il en soit, j'ai passé un bon moment. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé un bon moment comme ça au cinéma, dans un calme. On entendait la musique dans le film, tu vois, c'est
oui.
Ça. C'est posé. C'est pas un film d'action, vraiment pas. Il y a pas quasiment aucune violence dans ce film-là. Je sais pas. Un peu de tension par moment, mais rien de majeur. Donc, on est témoin d'une certaine poésie dans la relation entre un drone et un humain aussi. Il y a toute cette espèce de dynamique-là. Mais bon, ça casse pas des briques non plus. Mais juste pour l'émotion que ça m'a fait vivre, l'espèce de paix que ça m'a fait vivre, je lui donne 8.5 sur 10, qui est quand même pas rien. Film vraiment passé sous radar, on n'a pas vu presque aucune bande-annonce.
Il n'y a pas eu de publicité si haute que ça. Là, les quelques fois que j'ai vu des bandes-annonces, c'était tout le temps sur des productions un peu...
C'est québécoise ou petite, de petite envergure.
Ou sous-titrée, là.
C'est ça, puis c'est triste parce que le marché, disons, anglophone des films québécois, il n'est pas très populaire, bizarrement, il n'est pas très moussé, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, il y a d'excellentes productions. Le film que j'avais vu, dont je parlais tout à l'heure, du même réalisateur, Rebelle...
Mm-hmm.
Ça, c'est extraordinaire. Ça se passe aussi, je pense que ça se passe aussi en Afrique. En tout cas, bref, ça suit des enfants pendant des conflits armés et tout ça. C'est super bon. Alors voilà, 8.5 sur 10 pour ce film-là. Je veux juste petite note peut-être juste pour dire que le film est précédé, en tout cas peut-être pas tout le temps, mais était précédé dans mon cas, d'un court-métrage québécois d'une dizaine de minutes sur... le film s'appelait Farid et c'est sur la vie d'un poète d'origine berbère qui s'appelle Farid, qui tient un atelier de couture dans son appartement de Montréal. Sa relation avec la société qui pointe un doigt accusateur sur les musulmans qui font pas la différence entre une langue, la religion et des actes terroristes. Beau film qui en dit long sur ce que doivent vivre probablement certaines personnes victimes de xénophobie chez nous. Donc voilà. Alors, si vous voyez que les lumières restent allumées pendant les 10 premières minutes, c'est parce que c'est pas le même film. Le film n'est pas commencé. On est encore dans le court-métrage qui précède. Donc voilà. Un excellent film. Je reviens sur le nom. Regard sur Juliette, c'est disponible à la Maison du cinéma.
Super, merci
8.5
Jim.
En plus.
Ouais, mais c'est ça. C'est pour l'émotion.
C'est si bon.
Ouais, c'est ça. Le cadre est pas extraordinaire, mais le comment on sent qu'on le regarde, c'est un peu pour ça qu'on va au cinéma, j'ai l'impression. Fait que voilà.
Merci beaucoup, Jim.
Mais de rien.
Fait que là, on a droit à un segment qui est pas encore un segment régulier. Mais si
le chialage de Louis.
les soirs de chialage. M'enchante. Je ne sais pas si je te l'ai dit. Fait que aujourd'hui, je chiale. Pourquoi est-ce que je chiale? Pas parce que je chante mal, quoi que ça arrive.
Mais tu chiales tout le temps. Moi, je comprends pas pourquoi tu fais une exception avec ça aujourd'hui.
Parce que je veux faire un 5 minutes où je chiale.
Ah, bon, c'est, ben, OK.
Il y a une volonté ici de chialage, Jim. C'est ça qu'il faut comprendre.
D'accord. Ouais, on l'accepte et on t'écoute.
Aujourd'hui, je chiale à cause des films d'action et des films de désastre qui ont aucun sens. Parce que je suis un fan de films d'action. Depuis le début de l'émission, vous l'avez entendu, c'est un problème que j'ai. Je trippe sur des trucs comme
Mission Impossible.
Certains Missions Impossibles, pas toutes. Dès qu'il y a des explosions, des guns habituellement, je vais au moins donner une chance, je vais au moins essayer d'y aller. Il y a des films d'action extraordinaires, même dans la dernière année. On a eu les deux John Wick, on a eu La Matrice, on a eu un paquet de trucs.
La Matrice, dans les deux dernières années.
C'est vieux du calvaire, mais c'est des meilleurs. Ouais, qui est peut-être pas La Matrice. Mais il y a eu d'excellents films d'action dans le passé, puis il y en a eu qui avaient des budgets vraiment bâtards, puis qui ont quand même réussi à faire des trucs extraordinaires. Là. Justement, John Wick, le premier, avait un budget de 3 millions seulement, qui est minuscule comparativement à un paquet d'autres affaires. Puis c'était des films qui étaient excellents, qui avaient une histoire qui était crédible, qui avaient un contexte intéressant, qui avait quelque chose, il y avait de la chair, il y avait de quoi de le fun dans ces films-là. C'est ce qui m'insulte autant quand je vois des trucs comme Ravage que je viens de regarder, que je vois Justine dans la ville, Death Wish que j'ai vu il y a quelques semaines, Géotempête que j'ai vu l'année dernière. Tous ces films qui, pourtant, ont des budgets de fou, qui ont des possibilités d'avoir accès à des scénaristes, à des directeurs, à des réalisateurs, à des créateurs d'effets spéciaux extraordinaires, mais qui réussissent pas à lever les foules, qui se ramassent avec des scores sur Rotten Tomatoes de scrap. Parce que, pas parce que c'est pas beau, souvent c'est même très joli. On peut penser aussi à la série Transformers, mais qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas une histoire intéressante, qui sont juste une excuse pour nous garocher plus d'explosions au visage. Puis, loin de moi vouloir faire la critique des explosions garochées au visage à outrance, j'aime bien ça, mais Christy, est-ce trop demandé que d'avoir une histoire décente avec ça? Mm-hmm. Est-ce trop demandé que de vouloir au moins un contexte explicatif, au moins une trame narrative qui se comprend? Je veux dire, il y a tellement de beaux romans qui se sont écrits dans les dernières années, je veux dire, depuis que le monde est monde, il s'écrit des romans, plusieurs d'entre eux sont des romans d'action qui pourraient s'adapter, ou si vous voulez pas aller là, engager des scénaristes qui ont de l'allure, si on parle de romans qui ont été transformés en films d'action, vous pensez à la série de La mémoire dans la peau, Born Identity, Born Memory et toute la patente, qui, basé sur un livre avec des budgets très, très minimes comparativement aux acteurs qui jouent à l'intérieur, mais qui pourtant réussissent non seulement à être excellents, mais en plus à révolutionner le genre, à créer un nouveau style de caméra, à inventer une nouvelle manière de faire des films d'action. Christy. Donc, c'est pour ça que je m'insurge aujourd'hui contre les mauvais films d'action qui nous prennent pour des caves, parce qu'on aime les explosions.
Mais moi, je rajouterais quelque chose à ton affaire, parce que je suis pas... J'aime les films d'action, j'irai pas directement voir un film d'action parce qu'il y a des fusils et des explosions, comme toi, mais j'apprécie certains films d'action. Et effectivement, il y a eu des grands films d'action qui ont révolutionné le genre et tout ça. Il y a eu des navets, hein, plusieurs même. Et le problème, j'ai l'impression, c'est que quand on botche des films comme ça, puis qu'on fait des choses comme ça, ça nuit au genre. Ça nuit à l'appréciation du public, du genre. Ça fait... Les films d'action, c'est de mauvaise qualité, c'est juste pour faire de l'argent, c'est des affaires commerciales purement. Alors qu'il y a effectivement des bons films d'action, comme tu parlais de John Wick, tu parlais de Baby Driver, des films qui essayent quelque chose, d'aller plus loin, et malheureusement, ils se font, disons, pas traiter, mais se font juger à cause de leur genre, et donc certaines personnes vont les boycotter, et donc ça ouvre toute une espèce de pan de ce genre-là, qui était un genre extrêmement populaire, les films d'action des années 90, c'était... Tout le monde écoutait des films d'action.
Little Weapon, Fatal Attraction...
Bon, pas eu que des bonnes choses non plus.
Ben oui, mais la carrière au complet de Bruce Willis, de...
C'était que des films d'action. Puis oui, effectivement, je pense qu'à un moment donné... Les compagnies de production, c'est pas que dans le genre des films d'action, dans les films plus disons, comme les films que Mélina va voir, il y en a eu beaucoup de ça. Je pense qu'à un moment donné...
Les comédies romantiques.
Je pense qu'à un moment donné, on se dit, ah, il y a telle personne qui joue dedans, on va sortir le film pareil, même si l'histoire casse pas des briques. On sait qu'il va y avoir du monde quand même qui va aller le voir parce que telle personne joue dedans ou The Rock joue dedans ou ci ou ça. On sait qu'on va vendre quand même, on s'en fout.
Ben comme... Ryan est là, on va y aller.
C'est ça. En tout cas, peut-être pas le meilleur exemple, mais mettons. Non, c'est ça. Mais tu sais, je sais pas, tu sais, je trouve ça triste.
Mais
ça nuit au genre,
ça
nuit au
cinéma.
Même
aussi, avec, quand les acteurs sont pas connus, comme je me souviens du film que j'étais allée voir, où c'était l'histoire d'une personne fictive, d'une âme qui se réveillait dans...
Oui, qui réveillait dans un corps différent chaque jour.
Des choses comme ça que tu te dis, OK, ça aurait pu être intéressant, mais...
Le concept était bon.
C'est pas très bon, puis on n'a pas d'acteur non plus connu là-dedans. Pourtant, pourquoi, tu sais... Pourquoi faire ça?
Pourquoi se faire... Puis c'est des ressources extraordinaires, là. Les budgets, moi, je pense entre autres à Jurassic World l'été passé, qui était pas bon, là. Je veux dire qu'au niveau de la trame narrative, il n'y avait rien de pertinent. Tout ce qu'on avait, c'était justement Chris Pratt, qui était sexy en Chris Pratt. Puis c'était à peu près ça, tu sais, qui a coûté centaines de millions de dollars.
Oui, mais c'était le retour d'un Jurassic Park. Je pense que juste à cause de ça, ils savaient que ça allait marcher.
Puis ça a marché assez qu'ils en ressortent un autre cet été, à mon plus grand désespoir. Mais mon point reste quand même que c'est ça, des trucs comme Ravage. Moi, je repense à Géotempête, puis j'ai encore des frissons dans le dos. Un Justicier dans la ville, c'était comme moins pire, parce qu'il y avait au moins une tentative de faire quelque chose de différent, mais...
Sharknado.
Non, ça c'est un autre département.
C'est assez mauvais pour être bon, c'est ça.
C'est ça, c'est pas la même chose. Géotempête, ça se voulait plus sérieux, justement. C'est ça qui était triste.
Si ça avait tourné ça en humour, ça aurait pu être moins
non, bien. C'est ça. C'est tous ces films que tu regardes puis tu te dis... Puis on a eu la discussion, Jim et moi, à l'occasion, où est-ce que je disais « Ah, ce film-là a l'air bon. » Jim qui me dit « Ouais, mais les films d'action, hein?
Mm-hmm. »
Parce que Jim s'est fait brûler une fois de trop, là. T'as dû voir
absolument. Mais tu sais, je vais voir certains films quand même d'action. C'est juste que à la base, quand un Mission Impossible est annoncé, et là, justement, il y en a un qui est annoncé, je me dis pas « Wow, un Mission Impossible, j'ai hâte de voir Tom Cruise courir avec les dents. » Tu comprends? Non.
Avec les dents!
Je me dis pas ça, tu sais.
Un stéréotype quand même avec Tom Cruise qui court puis ses dents.
Mais je me dis pas ça, je me dis « Encore! » Je me dis « Encore! » Parce que j'ai été déçu.
Alors que Mission Impossible est pas le pire, mais est quand même très décent. Là. Il y a une couple d'histoires intéressantes. Il tente de renouveler la sauce au moins un peu à chaque fois avec des gadgets un peu plus élevés. Mais tu sais.
Les gadgets sont le fun, c'est pas ça. C'est le reste le problème.
Ouais, c'est un autre département.
C'est ça.
Je m'insurge parce que les films d'action nous prennent pour des tweets. Puis j'aime les films d'action assez pour dire que je demande plus de mes films d'action. J'annonce donc officiellement que je boycotte les films d'action qui sont pas au moins originaux ou intéressants ou vraiment bien faits parce que...
T'es conscient de la subjectivité de ce que tu dis là?
Oui, c'est correct.
Oui, parce que tu pourras pas le savoir avant de le voir nécessairement.
Je vais me fier aux critiques qui voient plutôt que moi. Je sais pas, là, je vais trouver quelque chose, mais je pense que... En fait, quand il est venu dedans de choisir mon film cette semaine, j'avais le choix entre Vérité ou conséquences, Le cheval indien... ou Ravage, puis je vous annonce que dans le temps futur, quand un choix comme tel va se présenter...
Faut aller voir Le cheval indien.
Je vais aller voir peut-être Vérité ou conséquences. J'ai encore de la patience pour les mauvais films d'horreur.
OK.
Mais t'as tout à fait raison.
Ben oui,
puis
non, mais c'est bien.
Moi, j'étends même ça. Toi, tu parles des films d'action, mais effectivement, j'étendrais même ça là, aux comédies romantiques, aux comédies en général.
Le cinéma populaire, actuellement, il faut avoir du flair pour aller chercher les perles, parce que... C'est pas comme à l'époque. Il y a beaucoup de films qui sortent dans une année. Et dans ces films-là, ils sont pas tous bons.
C'est ça,
puis
exactement.
C'est... Malheureusement, quand tu vas voir un moins bon film, ça donne pas le goût de voir les suites. Exactement. Ça donne pas le goût de voir les films connexes. Comme moi, j'ai vu un mauvais Marvel. J'ai vu Thor.
Ouais, puis c'était un des pires.
Et
ouais.
Ça m'a pas donné le goût de voir les autres Marvel. Tu vois, c'est ça. C'est... Pourtant, je suis un fan de comic books. Quand j'étais petit, j'avais des comic books. Donc,
mais c'est ce qui rend en fait triste que le succès d'un film comme Deadpool... Don't get me wrong, j'ai adoré Deadpool, là. Mais ça aurait pas dû être un vent de fraîcheur. Ça aurait pas dû être une perle parmi les cochons. Ça aurait dû être, ça devrait être un parmi tant d'autres. Fait que ce serait ça.
Mais
ça
merci
serait,
pour ce chiolage de la semaine, oui.
Les soirs de pétage de coche. mangeante. Je ne sais pas si je te l'ai dit.
Ça paye louer les cours de chant.
Ouais, non, je vois le mon petit truc ici, puis ça me dit que non. Je
ça
paye
pas.
Payé.
Ça paye pas.
Ça paye pas. Pas payé. Ouais, mais toi, tu payais, par exemple.
Écoute, c'est des choses.
C'est ce qu'il faut.
Fait que ce serait ça pour le chialage. Vous l'avez entendu, vous le savez ce que ça veut dire. French, Marie, gifle. Mais cette fois-ci, on a réalisé que nos univers culturels étaient vraiment disparates. Mm-hmm. Puis qu'on n'était pas foutus de trouver qu'est-ce qui nous faisait plaisir ensemble. Fait qu'on y a été pour des types de films. Parce qu'on s'est dit que ça au moins, et que Calvert, t'as pas l'air convaincu.
Ben, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, Louis, on sait tous exactement ce que qui va prendre. Moi, quand j'ai eu les choix, j'étais persuadé de ce que j'allais écrire, puis j'étais persuadé que tu savais ce que j'allais écrire et que je savais ce que t'allais écrire. Et Mélina aussi. Ça me semble évident. En tout cas, je vais tester l'annoncer, mais il faudrait peut-être expliquer à nos auditeurs c'est quoi exactement French Marie Gifle, parce qu'il y a des gens, des néophytes qui viennent se joindre à nous qui ne sont peut-être pas au courant, Louis.
French Marie Gifle, dans le fond, c'est la version radiophonique d'un jeu que vous connaissez peut-être sous un autre nom, où est-ce qu'on doit choisir une personne que l'on French, une personne que l'on gifle, une personne que l'on marie. L'on marie à long terme, on French une fois, on gifle à jamais.
Voilà. Mais comme tu dis, ça porte un autre nom dans la nature.
Ailleurs qu'à la radio, comme
c'est ça. C'est ça.
Donc, les films d'horreur, de char ou français?
Qui commence?
Toi.
Oh yeah! Ben écoute, Louis, comme tu vas sûrement être totalement étonné...
Attends. Je peux-tu... Tu me laisses-tu deviner?
C'est pas juste, là?
Je pense que Jim...
Attends, je vais enlever mes écouteurs pour pas entendre ce que tu dis.
Non, faut que tu... Non, mais je devine tes trucs. Hein? Donc, OK. Donc, je devine tes trucs. Donc, je pense que tu vas marier les films français, que tu vas gifler les films d'horreur et que tu vas embrasser les films de char.
Presque!
Oh shit!
C'est pas ça!
J'ai grandement hésité, je vais t'avouer, entre ces deux-là, mais je me suis souvenu de quelque chose. Alors, écoute, au début, effectivement, je marie les films français, il n'y a pas de doute possible là-dessus, c'est de loin le meilleur cinéma. Bref. Au niveau de la gifle et du French, alors évidemment, mon envie était de gifler les deux, mais comme le jeu l'interdit, j'ai dû faire un choix. Je savais qu'en prenant ces choix-là, tu allais me forcer à frencher soit les films d'horreur, soit les films de char. Et je me suis dit, OK, les films d'horreur, c'est vraiment pas mon genre de film. On va se dire les vraies choses. C'est pas du tout mon genre, mais je reconnais quand même un incroyable travail dans ces films-là de renouvellement. Comme pour faire un film d'horreur, il faut pouvoir se renouveler tout le temps. Tu peux pas faire un film qui était comme un autre, quoi qu'il y en a malheureusement beaucoup, mais un film d'horreur doit toujours réinventer le genre. Alors, déjà, au niveau du genre, c'est intéressant. Au niveau des films de char, comme tu dis, des films de voiture, malheureusement, je n'ai qu'un seul film que je connais, que j'ai apprécié de char. Et c'est Gone in 60 Seconds, parti en 60 secondes avec, je sais que c'est bizarre, mais avec...
Nicolas Cage!
Et donc, c'est ça.
T'as peu.
Ce film-là est extrêmement bon. Là. Oui, il y a plein de monde connu.
Il y a aussi Angelina Jolie.
Oui, effectivement. Et ils font des choses dans l'auto, à part de ça. Mais ce film-là est super bon. Super bon. Mais les films d'auto, c'est le seul de tous les films d'auto que j'ai vu, que j'ai apprécié. Ni plus ni moins, comme il n'y en a pas d'autres. Donc,
mais là, t'as peu. Est-ce que je t'ai forcé à voir Baby Driver ou pas?
Mais j'ai pas encore vu. Probablement que ce serait mon deuxième. Mais même là, deux films seulement. J'ai vu plus de bons films d'horreur tant que ça. Alors, pour cette raison, je vais frencher les films d'horreur et gifler les films de char. Parce que malgré mon amour absolu pour partir en 60 secondes et ton amour absolu pour Nicolas Cage, je ne peux pas succomber, Louis, à frencher les films de voiture pour un seul film. Donc voilà, et je vais donc frencher les films d'horreur qui, malgré que ce n'est pas mon genre, j'ai vu des choses quand même. J'ai vu Mother l'année dernière. C'est un film qui m'a sorti de ma zone de compteur.
Aussi.
Quand même. Oui, c'est disons plus expérimental, mais quand même, on est dans le... certains bons films de Kubrick, j'ai vu des bonnes choses quand même dans l'horreur. C'est juste que si tu me demandes qu'est-ce que tu as envie de regarder comme film ce soir, ça sera pas un film d'horreur. Voilà.
Mélina.
Veux-tu essayer de deviner pour moi aussi?
Tu vas marier les films français, frencher les films de char et gifler les films d'horreur.
Tu dis la même chose que moi.
Oui.
C'est exactement ça, en fait.
Oh! Tu vois, j'ai eu raison, toi, vas-y.
Parce que marier les films français, oui. Frencher les chars, les chars, oui, c'est ça. Oui, frencher les chars aussi, j'aime ça. Donc, c'est pour ça que je french les films de chars. Non, j'ai bien aimé, pour de vrai, les Rapides et dangereux. Mais j'avais quand même aimé ça. En termes de films d'horreur, c'est vraiment personnel, mais je suis déjà assez nerveuse dans la vie que je vois pas l'intérêt pour moi-même, c'est vraiment personnel, mais je vois pas l'intérêt pour moi-même de me rajouter du stress et de la peur dans mon divertissement. Donc, voilà.
Ça s'explique. Et Louis, est-ce qu'on peut essayer de deviner ton
truc?
Moi,
je pense que Louis va marier les films de char.
Moi aussi, je pense qu'il va frencher les films d'horreur et gifler les films français.
Ouais.
Un sur trois.
Hey.
Oh, mais je suis bien étonné.
Je gifle les films français. Là, les Noël de M. Chabat, les ch'tis de je sais pas où, depuis Ma nuit chez Maude, il n'y a pas de bon film français qui s'est fait.
Oh mon Dieu, quel sacrilège.
C'est
blasphème en ondes.
Puis Ma nuit chez Maude, ça date de 1969. Non, c'est pas vrai, il y a Le grand détournement à la classe américaine, mais ça compte à moitié.
C'est pas tout à fait un film français. Ouais,
c'est pas tout à fait un film.
Pas tout à fait un film, ouais, c'est ça.
Pour être honnête. Je french les films de char. Parce que, puis là, ça revient à la version originale du film, là, la version originale du jeu, où c'est très one night comme aventure. Mm. Parce que, pour moi, c'est ça, les films de char. Pour moi, les films de char, c'est kiss and tell.
T'sais,
c'est
une aventure d'un soir.
Tu passes, puis tu fais, oh, c'est donc bien sexy. Puis tu t'en vas ailleurs, parce que il y a pas de profondeur à ces affaires-là. Il y a des belles affaires qui sont faites, puis je vais continuer d'insister que Baby Driver, c'était excellent, puis que la série Rapide et Dangereux, il y a certains qui sont vraiment écoutables, mais ça reste des films qui n'ont pas de profondeur, qui n'ont pas... C'est dur en sacrifice de faire quelque chose de compliqué, de complexe, de complexé quand tu parles...
Complexifié.
Quand tu parles de films de char. Parce que la prémisse fait que faut que tu passes du temps à regarder des bolides modifiés ou pas, fancy ou pas. T'sais, c'est
des
pas...
petites histoires d'amour qui se tiennent pas debout, puis bon.
Des madames en mini-jupe. T'sais, c'est pas... La forme fait que ça rend ça moins le fun, au niveau profondeur. Je suis donc obligé de marier les films d'horreur parce que j'ai mes réserves, puis c'est pas tous les films d'horreur qui sont bons. Là. Entendons-nous, il y a une couple d'exorcistes de trop. À ce point-ci, Jason devrait prendre sa retraite, puis Helm Street a été ravagé. À ce point-ci, là, on arrête ça, c'est fini, là. Puis Freddy versus Jason est un low point dans cette histoire-là.
Je pense que c'est l'équivalent de Batman versus Superman...
Ça, c'est manquer de respect pour beaucoup d'affaires dans la vie. Mais je pense, entre autres, à Quiet Place, Un Coin Tranquille, que j'ai vu récemment, qui, malgré que c'était un film d'horreur, est un film qui était excessivement contemplatif, qui nous forçait à considérer notre relation au son, qui nous forçait à considérer notre relation au rythme de vie. On pense à des trucs qui oblige et qui force à regarder différemment la forme, le style. Je pense qu'un film d'horreur qui m'a permis de me réconcilier énormément au genre, c'est A Cabin in the Woods, Un chalet dans le bois, qui n'est pas un film d'horreur en tant que tel, c'est plus un pastiche d'horreur, mais qui, justement, peut jouer avec tous ces clichés-là, ces stéréotypes-là, pour en faire quelque chose de vraiment intéressant. Quelque chose qui n'est pas nécessairement ou qui n'est pas encore assez mature dans les films de genre pour être développé. Par conséquent, passez-moi la bague au doigt, je m'en vais marier les films d'horreur.
Eh ben, quel revirement de situation.
Parfum.
Eh ben, mais quand même.
C'est la fin de cet épisode de Cinébrunch. On a fini notre popcorn, on est passé à autre chose, on est rendu au dessert. Il n'y a pas de dessert d'un brunch parce
popcorn
que t'as déjà mangé
chocolat.
Des crêpes.
Popcorn au chocolat.
Popcorn au caramel.
Popcorn au chocolat.
Popcorn à l'érable. C'est encore un peu le temps des sucres.
Ah, on pourrait peut-être justifier popcorn à l'érable.
Moi, j'aimerais bien, moi.
Mesdames, messieurs, on vous souhaite donc une extraordinaire semaine et un excellent popcorn. Moi-même, Louis, et toute l'équipe de Cinébrunch, Jim et Mélina.
Salut.
Bonne semaine.